Retrouvez votre rendez-vous avec l'information, une édition spéciale Israël, présentée par Laura Saint.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Nous poursuivons notre édition spéciale en Israël cette semaine. Aujourd'hui, j'ai été accueilli à quelques kilomètres de la bande de Gaza par le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafovitch, dans le kibbutz Kfar Aza, l'un des premiers kibbutz attaqués par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023.
On est à Kfar Aza. Kfar Aza, c'est magnifique. On entend les oiseaux chanter, c'est pastoral, c'est presque le paradis sur Terre. Sauf que le 7 octobre 2023, ce paradis sur Terre est devenu l'enfer. En quelques heures, des centaines de terroristes du Hamas et du Djihad islamique, avec des centaines de Gazaouis, je dis bien des centaines de Gazaouis, des femmes Gazaouis, des enfants Gazaouis, des hommes Gazaouis qui ne sont pas directement Hamas, sont entrés ici à 6h30 du matin, durant entre autres, là c'est nous qui tirons, un barrage de missiles contre Israël, et ils ont tué, ils ont violé, ils ont brûlé des maisons, ils ont pillé. On a retrouvé là dans les opérations de Tsahal, alors nous parlons dans les maisons que nous trouvons dans Khan Younes, où il y a des terroristes, on trouve des jouets qui ont été volés ici. On trouve des chaussures de femmes qui ont été volées ici, de femmes qui étaient vivantes, parfois qui étaient mortes. Et on a même trouvé une coupe de sport d'un sportif qui avait été... dont la coupe avait disparu. Elle a été retrouvée dans une maison à Khan Younes. Et durant le massacre qui a eu lieu ici, on va voir ce qui s'est passé. Malheureusement, il reste encore les restes de ce meurtre de masse. On a eu des scènes, parce que tout a été filmé par les Hamas. Ils ont tout filmé. En général, dans l'histoire des meurtres de masse, en général, les criminels cachent leurs meurtres. Ce que faisaient, entre autres, les nazis, qui ont fait les pires des horreurs, mais ils n'ont pas filmé. Ils n'ont pas gardé de preuves pour pas qu'on les accuse. Eux, ils ont fait tout le contraire. Ils ont tout filmé. Avec des caméras GoPro. Et on a les preuves. On a des milliers d'heures de tournage. Des images ont été montrées au monde. D'autres sont immontrables. Pour des raisons de ce qu'on appelle la sainteté des personnes qui ont été elles-mêmes tuées, massacrées. Ce que je vais vous dire, avant qu'on commence cette marche dans cet endroit, c'est que pour nous, Israéliens, on est encore sous le choc. Il faut comprendre que nous sommes encore sous le choc du 7 octobre. Ce n'est pas du tout terminé. Et la guerre que nous menons depuis le 7 octobre est une guerre qui a été imposée à l'État d'Israël. Et cette guerre, je peux vous le dire, de toutes mes forces, de toutes nos forces, cette guerre, nous la menerons jusqu'au bout. Personne ni rien nous arrêtera. Nous démantèlerons le Hamas et nous ferons que le Hamas n'existe plus comme force politique ou comme force militaire dans la bande de Gaza. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et ceux qui demandent parfois combien de temps ça va prendre, je vous rappelle que la coalition internationale qui s'est battue contre Daesh, ISIS, à Mossoul entre autres, ça a pris au moins 9 mois. Et durant 9 mois, il y a eu une guerre, et durant 9 mois, il n'y avait pas de souterrain ni de tunnel qu'il fallait également trouver, chercher, faire exploser. Et ça a pris 9 mois à la communauté internationale, cette coalition, menée par les USA, avec la France entre autres, pour mettre fin à Daesh. Et malheureusement, Daesh n'est pas mort totalement, mais en tout cas, ça lui a donné un grand coup qui a arrêté son expansion, entre autres, au Moyen-Orient.
Au départ de cette visite, dans ce kibbutz fantôme assommé par l'horreur et le bruit des bombes qui explosent à quelques kilomètres de là, un homme au sourire radieux est affiché. Lui, on nous l'affirme, est un homme de paix, prônant chaque jour des initiatives entre Israéliens et Palestiniens. Lui est la toute première victime des terroristes, tuée à 7h du matin, le 7 octobre.
Alors je voulais d'abord qu'on commence par ici, parce que ici il y a la photo d'un homme qui sourit, qui s'appelle Ophir. Ophir Lichtenstein, Zichrono Livracha. Ophir était le maire, il habitait ici. Il était le maire de cette ville. Et moi, par hasard, je l'avais rencontré au mois de juin avec son épouse et un de ses fils, avec un groupe de donateurs américains qui étaient venus en Israël, qui voulaient voir comment on peut aider Israël. Et ils avaient reçu dans toute la région, Ophir, une cinquantaine d'années, souriant, adorable. Et lui, il avait un rêve. Il avait un rêve, comme d'ailleurs beaucoup de gens dans la région, de créer des zones de commerciales palestino-israéliennes pour un développement de la région. Et il nous montrait entre autres une région en disant voilà, là il y aura des businessmen israéliens qui rencontreront des businessmen palestiniens et ensemble ils feront des usines, ils feront des fabriques et ça peut être le début d'une collaboration parce que nous on est à côté d'eux, on veut vivre à côté d'eux. Résultat, c'est que le 7 octobre, c'était le premier dont l'identité a été donnée comme mort, tué par le Hamas, le 7 octobre.
Et puis la réalité dépasse la fiction. Les bombes font trembler le sol du kibboutz Kfar Aza. Le porte-parole armé de son gilet pare-balles prodigue clairement ses recommandations alors que la guerre est visible dans le ciel de Gaza, à portée de vue.
On ne peut pas. Alors, juste un instant. On est quand même dans des zones de guerre toujours. Alors, ce qu'on entend là, ce sont... je vais faire un plan très vite de ce qui se passe actuellement dans la région parce que la guerre n'est pas terminée. Il y a un effort militaire actuellement très conséquent de Tsahal avec ce qu'on appelle la division 98 commando dans Khan Younes, qui est aujourd'hui l'épicentre, le centre névralgique du Hamas, avec beaucoup d'opérations. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une zone de guerre, donc au cas où il y a une alerte, l'alerte n'est peut-être pas, au cas où il y a quelque chose, je vous dis, mettez-vous par terre, vous mettez par terre. Et vous vous éparpillez. D'accord ? Les mains sur la tête. Je suis très sérieux. Hein. D'accord ? Non, c'est pas une simulation. Normalement, il faut avoir un gilet pare-balles, mais vous ne l'avez pas. Donc devant nous, c'est la bande de Gaza. Nous sommes à 1600 mètres, 2000 mètres à peu près, avant les premières maisons de la bande de Gaza. C'est de là qu'où sont rentrés les terroristes, dans plusieurs dizaines de failles ou de brèches le long de la frontière. La frontière n'est pas là, mais là, ce sont les frontières, les barrières entre les kibbutzim, les moshavim ou la bande de Gaza. Et la bande de Gaza, c'est 2 200 000 habitants, une zone extrêmement peuplée et dense. Il faut imaginer maintenant que quand ça rentre dans la bande de Gaza, même avec des milliers de soldats, de troupes, même du renseignement, il y a une véritable ville sous la ville. Il y a des milliers de kilomètres de souterrains qui ont été creusés de manière extrêmement sophistiquée par le Hamas. Et ceux qui me disent le Hamas n'a pas d'argent, ne peut pas faire ce qu'il doit faire, alors ils n'ont construit aucune école depuis qu'ils sont au pouvoir, aucun hôpital, aucune clinique, tout a été donné par des pays étrangers comme don. Par contre, ils ont été capables de faire des tunnels. Donc ils sont très bons constructeurs et très bons maçons, et très bons architectes aussi. Donc cette bande de Gaza aujourd'hui, on n'est pas en guerre contre les Gazaouis, je voudrais vous le dire quand même. On n'est pas en guerre avec Gaza, on est en guerre avec le Hamas à Gaza. Et il y a aussi une guerre informationnelle dans cette guerre, une guerre dans la guerre. Et vous êtes entre autres ici des hommes, des femmes des médias, des journalistes. Et Israël fait face aussi à cette guerre des médias, à cette guerre des fake news. Ça fait partie malheureusement de la presque une certaine routine à laquelle Israël fait face dans tous nos conflits. Moi personnellement, en tant qu'Israélien, en tant que partageant les mêmes valeurs que les autres démocraties, je suis toujours un petit peu surpris, même plus que surpris, par le fait que des démocraties amies nous posent des questions, préfèrent parfois le narratif du Hamas plutôt que le narratif d'Israël. Les raisons sont multiples, on n'est pas là pour vous donner les réponses, vous les connaissez aussi, peut-être, entre autres. Mais il est clair que dans la guerre informationnelle, il y a beaucoup de victimes aussi. Parce que les mots tuent. Est-ce que c'est vrai que des bébés ont été brûlés dans les fours ? Un a été trouvé, et on a dit, est-ce qu'on peut voir le bébé brûlé ? Parce que si on ne voit pas le bébé brûlé, on n'y croit pas. Moi, j'ai vu, moi, personnellement, dans la morgue de Achoura, quand j'ai accompagné des officiels français, j'ai vu deux sacs blancs. Et dans chaque sac blanc, il y avait une tête coupée et carbonisée d'homme, d'adulte. Il a fallu des archéologues, qu'on a dû utiliser du centre d'archéologie israélien, pour pouvoir savoir qui sont ces morts. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore des archéologues qui doivent déchiffrer des cheveux ou des dents, ou des bouts de mains. J'ai présenté moi-même à madame
Colonna.
non, Madame Brown-Pivet qui était aussi là. On nous a montré un sac avec une main carbonisée, coupée. Un film d'horreur. Et des gens posent des questions. Est-ce que c'est vrai? On peut voir les mains, on peut voir les pieds, parce qu'il y a des bouts d'êtres. Là, il y a dans un des villages, je ne sais pas si celui-là ou un autre, où on est rose, on a enfin trouvé que le père et le fils avaient été tués ici, brûlés jusqu'aux cendres, il restait quelques dizaines de grammes de cendres. C'est ça que la famille a enterré. D'autres familles ont été totalement décimées. Donc il n'y a même pas la possibilité de comparer l'ADN trouvé avec quelqu'un de la famille. Alors je ne voudrais pas vous dire que c'est la Shoah. Parce que la Shoah, elle a eu lieu et je ne voudrais pas la comparer à ce qui s'est passé. Mais ce sont des scènes, que nous ne pensions pas revivre, nous Israéliens et je pense tous les Juifs. Mais je pense que le monde entier ne voulait pas penser la même chose. Qu'on soit chrétien, musulman, blanc, noir, rouge, peu importe. Et cette guerre qu'on entend maintenant se passe parce que il y a eu ça. Je vous le dis encore une fois, en tant que Tsahal, en tant que l'armée israélienne, nous irons jusqu'au bout. Et rien n'arrêtera Israël tant que le Hamas existe. Et croyez-moi, les Gazaouis sont très contents de ça. Ils n'osent pas le dire. Commence un peu à parler maintenant. Les pays arabes, d'ailleurs, de vous à moi, ils ne réagissent pas à ce qui se passe, comme on pourrait réagir à Londres, à Paris, ou dans d'autres grandes villes européennes. Pourquoi eux ne réagissent pas? Pourquoi eux réagiraient moins fort que les Européens qui ne connaissent pas ce problème? Parce qu'ils savent ce que c'est que le problème du salafisme, qui ronge les pays arabes aussi, qui est un danger aussi pour eux.
Si le porte-parole parle sans ambiguïté sur les ambitions de Tsahal, c'est parce que le peuple israélien est traumatisé, encore atterré 4 mois après ces attaques sanglantes, animales, inconcevables. Ce qu'il s'est passé ce matin-là, aucun enfant natif de cette terre d'Israël ne pourra l'oublier.
Ils ont tué et ils sont rentrés dans les maisons. Quand les maisons étaient ouvertes, ils ont simplement tiré à bout portant sur les gens. Alors, voilà, c'est comme un petit village. Ceux qui ne connaissent pas le kibbutz est une petite communauté de à peu près de 500, 600 habitants. Ça peut être 1000, ça peut être 2000. C'est un peu comme des grandes fermes collectives. Et imaginez-vous, là, dans ce passage-là, toutes ces maisons ont été, en fait, attaquées. Là, on voit des marques de balles de mitrailleuses sur la maison. Et certaines ont été investies par les terroristes, d'autres non. Les gens ont pu se cacher. Ces maisons-là, ce quartier-là a été le plus attaqué parce que c'est le premier quartier avant l'arrivée des terroristes. Cette porte-là, elle a été réparée il y a à peu près 3 semaines. Elle était totalement cassée parce qu'ils étaient rentrés avec des motos, avec des pick-up. Donc, imaginez-vous, c'est Gaza, ils rentrent par là et c'est la première ligne. Donc ils vont attaquer, tuer ceux qui sont là. 6h30 du matin, en général le Shabbat on dort à cette heure-là. Simchat Torah, c'est le jour de la fête. En plus, Shabbat et ensemble. C'est le jour où, ça va être une journée magnifique, une journée agréable. C'est devenu un drame et donc ici, ça a été la première ligne d'attaque. Et ils sont rentrés par ce chemin-là. Ils ont simplement détruit au tracteur avec des... Et les armes utilisées, les moyens qui ont été utilisés sont entreposés chez nous dans 2 bases à Tzrifin et à Djoulis. Les armes qui ont été trouvées, il y a évidemment des Kalachnikovs, il y a des armes d'origine nord-coréenne, des armes d'origine iranienne, des armes de fabrication locale. Il y a eu des drones aussi qui ont été trouvés. Ils sont arrivés aussi par Deltaplane. Sur Zikim, ils sont arrivés par la mer. Donc ils sont arrivés par la mer, par la terre et par les airs. Et le but, c'est une véritable invasion. Sur toute la ligne entre Gaza et Israël, et avec une percée vers Ofakim, qui se trouve à 24 km d'ici. Ofakim, petite ville tranquille, petite ville traditionnaliste. Pareil, Simchat Torah, le matin, 6h30 du matin, 3 ou 4 pick-up sont arrivés. Et ils ont tué tout ce qui bougeait à Ofakim. 52 morts ce jour-là. en quelques heures. C'est plus que les morts depuis la guerre d'indépendance au Fakir. Et je vais raconter une anecdote qui m'a frappé à moi personnellement. Dans un des films qui est filmé, dans une des vidéos qui est filmée par les terroristes eux-mêmes, on voit un chien arriver, vous voyez, et il tire sur le chien. Oui. Moi j'étais dans une assemblée de gens bien, et on voit des morts, on voit les meurtres, et lorsque le chien est tué, il y a eu l'effroi. Il y a eu plus d'effroi quand le chien est mort que quand les gens sont morts. Mais si vous voulez, on est dans une espèce d'histoire où le chien a plus marqué les esprits. Une autre chose que j'ai vécue durant une interview que j'ai donnée à TF1 et qui me paraît extrêmement importante pour comprendre non pas la nature du problème, mais de comprendre de quelle manière le monde aujourd'hui analyse ce qui s'est passé chez nous. La journaliste me pose la question en me demandant comment vous faites pour dire aux Palestiniens de s'écarter des zones de combat lorsque vous attaquez? Je vous dis, voilà, on lance des tracts, on fait des coups de téléphone, on a des techniques avec des unités spéciales qui, en arabe, et on a envoyé des tracts avec des QR codes. Elle m'a dit, mais comment ils font pour les QR codes? Il n'y a pas d'internet. Je dis, si, il y a internet qui marche. La preuve, on voit, lorsqu'on libère les otages, on voit tous les Palestiniens à Rafah avec leur téléphone portable, filmer, vous vous rappelez de ces photos horribles, là, et puis envoyer les photos à leurs amis. Donc, il y a Internet, ça marche. D'accord, bon. Et le soir, il y a le reportage. Donc, moi, je donne mon 15 secondes d'explication que je viens de vous donner. Et puis, elle interview, la chaîne interview un Palestinien qui dit El Yaoud, les Juifs nous disent d'aller là, mais là, ils nous tirent dessus. Donc, quand les Juifs nous disent d'aller là, nous, on va là. El Yaoud nous dit d'aller là. Ah, bon. Mais El Yaoud est traduit en français par les Israéliens. Dans TF1, à TF1, et le lendemain j'appelle la journaliste, je lui dis écoutez, le reportage, on va dire, décédeur, normal, mais pourquoi vous traduisez Al Yaoud quand le Palestinien dit Al Yaoud par Israël? Israël c'est Israël et El Yaoud c'est les Juifs. Donc pourquoi ne pas utiliser le mot dit par le Palestinien, puisque pour eux, ils ne sont pas en guerre avec Israël, ils sont en guerre avec El Yaoud. Et là il y a un blanc au téléphone, il me dit bon, vous comprenez, juif. Du quoi, juif, c'est pas une injure, c'est pas sale, c'est pas un mot interdit par le comment dire, par le. Et il me dit je vais vérifier avec la chaîne. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit bon, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur de traduction. C'est une volonté de pas traduire le mot juif. Parce que si vous traduisez le mot juif par juif, enfin les outes par juif, c'est clair que pour le Hamas, il faut battre contre les juifs, mais pour le monde, c'est une guerre entre les islamistes et les juifs. C'est plus du tout entre le problème israélo-palestinien, on n'est plus là. Et c'est ça qu'ils disent, eux. Pourquoi vous ne le dites pas, vous? Parce que c'est eux qui le disent. Elle m'a dit, oui, d'accord, on va faire ça la prochaine fois. Il n'y a pas eu de prochaine fois. Mais là où je vais en venir, encore une fois, c'est un sentiment que j'ai. Vous êtes en France, vous êtes membre de la presse. Le Hamas ne dit jamais Israël. Il dit les juifs. Ça ne me dérange pas qu'ils disent les juifs, mais il faut le dire. Et nous, on ne se bat pas contre les musulmans, nous, on se bat contre le Hamas. Mais le fait qu'il y a ce refus de définir le conflit du Hamas tel qu'eux le voient, crée, et je dis ça de manière extrêmement diplomate, crée, on va dire, des incompréhensions du conflit. Et je pense qu'il faut dire ce qu'ils disent. Je pense qu'il faut clairement appeler les choses par leur nom.
Au 117e jour de la guerre, Olivier Rafovitch nous informe sur les intentions militaires de Tsahal dans la bande de Gaza.
Je veux vous dire que là, actuellement, il y a un effort militaire important dans le sud de la bande de Gaza, donc à Khan Younes. Des milliers de terroristes ont été éliminés par Tsahal depuis maintenant quelques jours. L'effort continue. Il y a encore des efforts importants dans le centre. Et là, on est dans le nord, et dans le nord de la bande de Gaza, on entend également le bruit de notre artillerie, de tanks, également d'avions de combat ou d'hélicoptères. Il y a encore des forces du Hamas qui sont déconnectées des chaînes de commandement et de contrôle. C'est-à-dire que le Hamas, dans le nord, a été éliminé en tant qu'organisation militaire, stricto sensu. Mais il y a encore des terroristes, c'est ceux qui connaissent un petit peu la guerre ou l'art de la guerre, Il y a encore des éléments autonomes, déconnectés, mais qui peuvent toujours tirer, qui peuvent toujours faire du mal, donc on les cherche avec une autre division. Là où je veux en venir, c'est que la guerre n'est pas finie. Ça prendra le temps que ça prendra, ça peut prendre des mois encore, on ne sait pas. Mais nous ne finirons pas cette guerre, je le dis encore une fois, officiellement et amicalement pour mes amis ici, tant que le Hamas ne sera pas détruit dans la bande de Gaza. Et les gens posent des questions, nous demandent c'est quand le cessez-le-feu. Ben, le cessez-le-feu, c'est quand le Hamas soit dépose les armes et les chefs sortent, soit les mains en l'air, soit ils sont éliminés, et les otages sont libérés. Là, il y aura un cessez-le-feu. On ne fait pas un cessez-le-feu lorsque le Hamas crie Allahu Akbar, Idbar al-Yahoud, qui veut dire Dieu est grand et on va tuer les juifs, les massacrer, et on a encore 136 otages à la maison. Ce n'est pas un cessez-le-feu, ça c'est une défaite et c'est, comment dire, c'est courber les chines. Et ça c'est hors de question. Le juif du ghetto, le juif du Mela, le juif qui a peur, le juif qui se cache, qui courbe la tête, c'est fini ça. Et vous le direz à tout le monde ça. On veut la paix en Israël, mais il faut savoir que nos ennemis veulent nous détruire, ils veulent notre mort. Et ils l'ont montré le 7 octobre. On a un exemple, ceux qui ne croyaient pas, comme par exemple ceux qui pensaient peut-être à une paix avec le Hamas, peut-être, eh bien on a eu malheureusement la preuve que lorsqu'ils sont capables de rentrer chez nous à la maison, n'est-ce pas, et nous surprendre, c'est pas pour nous faire un gâteau d'anniversaire ou nous faire une surprise. C'est pour nous massacrer. Et enfants, femmes, vieillards. Il y a une femme ici qui a été massacrée à 75 ans, en direct sur Facebook Live. Et ses petits-enfants ont vu leur grand-mère assassinée en live par le Hamas. Des choses immondes. Des femmes âgées ont été violées ici. Des femmes ont été violées. Des hommes ont été violés aussi. Des enfants ont été tués. D'autres ont été décapités. Des soldats ont été décapités. On a les images, on a tout. C'est ça le Hamas. C'est pas la cause palestinienne, c'est pas le compromis, c'est pas deux États. C'est la mort. Et je disais il y a quelques jours à quelqu'un dans une conférence, je disais, supposons qu'on aille jusqu'au bout de l'exercice et qu'on écoute les gens du Hamas qui disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors ok, Allahu Akbar. Et après c'est Idbar al-Yahoud. Et après, c'est quoi le après? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent la fin de l'État d'Israël et son grand et le remplacement par un grand califat. Génocidaire en fait.
Olivier Rafovitch ne cache pas son inquiétude, mais reste déterminé à convaincre le monde qu'Israël doit se défendre pour maintenir son existence. Ce village aux allures de petit paradis abritant de généreux citronniers est marqué à jamais par l'horreur affichant les vestiges de ce massacre barbare. Des murs mitraillés par les balles, des toits entièrement brûlés, des habits et jouets abandonnés ici et là. Dans les salles de bain carbonisées, les produits de toilette sont encore rangés sur les étagères. Les terroristes du Hamas ont profondément ébranlé la société israélienne dans leur chair, au sein même de leur propre maison. Il faudra de nombreuses années avant que le traumatisme soit digéré et que la vie reprenne enfin dans cette splendide enveloppe de Gaza. Kfar Aza redeviendra alors un petit paradis sur terre où le bruit des bombes laissera la place à celui des oiseaux. Merci à tous de nous avoir écoutés en direct d'Israël depuis le kibboutz de Kfar Aza. Très bel après-midi à tous.
Retrouvez votre rendez-vous avec l'information, une édition spéciale Israël présentée par Laura Saint.